Y a-t-il?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour et bienvenue dans Cinérama, une émission consacrée eh bien, essentiellement à des films qui sont dans les salles depuis le 17 janvier, sauf un, voire deux Manu.
Et oui, Seul sur la plage le soir, le dernier film de Hong Sang-soo. Et puis je vous parlerai d'une reprise, Le baiser du tueur de Stanley Kubrick, qui est son second film. Et enfin, 24 heures limite, un film d'action.
Et puis eh bien Marine, qui n'est pas avec nous mais qui a quand même pu enregistrer ses chroniques, eh bien nous parlera de Le rire de ma mère, film français, le deuil d'une mère du point de vue de son fils, et puis du film L'enfant de Goa. Et quant à moi, eh bien je vous parlerai d'un excellent film polonais, et puis Le baiser du tueur, film de Stanley Kubrick, effectivement en reprise dans un certain nombre de salles en France, nous donnera l'occasion de jouer un blind test où on tentera de découvrir eh bien, 5 titres de films issus de la filmographie du maître américain. Mais avant, on va commencer avec un autre réalisateur américain au nom absolument incompréhensible.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Toute ma vie, j'ai tué pour de l'argent.
Alors, comment s'appelle cet homme, Manu?
Alors, je confirme, 24 heures limite, c'est un peu le cauchemar pour le chroniqueur radio, devant épeler le nom du réalisateur qui possède, en tout et pour tout, 4 consonnes, S-M-R-Z. Alors que je prononcerais Smirz pour simplifier. Voilà, passé ce détail un peu angoissant, que vaut ce film d'action qui part d'une idée faussement originale ayant déjà inspiré un vieux film noir des années 40, D.O.A., Dead on Arrival, où le héros avait 24 heures pour agir sur son destin avant de mourir. Alors Travis Conrad, un tueur d'élite d'une organisation paramilitaire, vit tranquille une pré-retraite au bord de la mer en compagnie de son beau-père depuis que sa femme et son fils sont décédés. Mais le destin le rattrape, il est engagé pour une mission, assassiner un témoin prêt à témoigner contre ses employeurs, Red Mountain, inquiétante agence de sécurité privée, en voulant épargner un agent d'Interpol, évidemment très joli, une asiatique, Lynn. Il se fait abattre par cette dernière, mais une procédure médicale expérimentale le ramène temporairement à la vie pour une durée de 24 heures. Dès lors, il va se retourner contre ses employeurs et essayer de découvrir l'horrible vérité qui se cache derrière son contrat. Alors plutôt habile, le scénario ménage son lot de surprises, mais aussi ses facilités et ses nombreuses invraisemblances. Les personnages manquent d'épaisseur, à commencer par le héros déchu, traumatisé par son passé. On a vu ça 100 fois au cinéma. Alors, c'est pas très grave, car l'intérêt est ailleurs, au fond. 24 heures limite est une efficace course contre la montre qui bénéficie d'excellentes scènes d'action filmées en live sans effet numérique, ce qui est très très rare aujourd'hui. La lisibilité d'un montage nerveux, le sens topographique dont fait preuve le cinéaste et la violence graphique assez impressionnante détonnent dans la production actuelle. La mise en scène énergique est constamment au service d'un script sans temps mort, rappelant à certains moments la série 24 heures justement. Alors en 90 minutes, Brian Smirz, réalisateur de seconde équipe sur le X-Men, le commencement et aussi de Die Hard 4, alors emballe un thriller survitaminé, jamais cynique, laissant transparaître un peu d'émotion, alors souvent à la limite de la sensiblerie. L'aspect très premier degré est par ailleurs assez étrange, on ne dénote aucune scène d'humour, ce qui est à la fois plaisant et par moments légèrement embarrassant quand Smirz tente des respirations inutiles avec des flashbacks ou images subliminales de sa femme et du fils du héros. En fait. Alors là, on frise un peu la niaiserie à plusieurs reprises. Mais le film évite de sombrer dans les productions réac si courantes dans le genre de film d'action, et sauf de très belles séquences visuelles, même si on se serait passé d'inutiles ralentis et d'une musique assourdissante. Alors niveau casting, Ethan Hawke est plutôt très bien. Dans un petit rôle aussi, Rutger Hauer, ex-réplicant dans Blade Runner et acteur fétiche de Verhoeven, s'offre une petite apparition émouvante. Alors, un bon divertissement, plutôt bien réalisé, que l'on prendra plaisir à revoir un dimanche soir à la télé et qui n'a rien à envier, je dirais, à toute une production de cinéma d'action des années 80-90.
Allez, dites-moi ce qui m'est arrivé.
Vous allez mourir. Encore.
Combien de temps il me reste? Combien de temps il me reste?
Il vous reste moins de 24 heures à vivre.
Voilà, vous étiez dans le bain, c'est 24 heures limite, c'est en salle depuis le 17 janvier. Tout comme Le rire de ma mère de Colombe Savignac et Pascal Rallit, film français qui eh bien, exprime le deuil d'une mère du point de vue de son fils. Et c'est Marine qui nous en parle.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Le rire de ma mère, c'est tout d'abord l'histoire d'une relation fusionnelle entre Marie et Adrien, son fils. Il est aussi introverti qu'elle est bonne vivante, aussi timide qu'elle est extravagante. Il aimerait faire du théâtre, du judo, mais sa peur des autres enfants le renferme toujours un peu plus. Adrien aussi entre le tempérament versatile et impétueux de sa mère et la rigueur rassurante de son père qui s'est entre-temps remis avec une nouvelle femme. Mais cette situation, somme toute assez conventionnelle, cache une réalité bien plus dure. Marie a un cancer auquel elle sait qu'elle ne survivra pas. Son fils le sait aussi et il va ainsi passer par différentes phases de déni, de rejet, puis finalement d'acceptation.
Ça va être un petit frère, une petite sœur ?
On ne sait pas encore.
Mais ça va changer quelque chose pour moi ?
Il y a des choses qui vont changer, d'autres pas.
Comme quoi ?
Par exemple, tu vas devenir le grand frère. Tu vas pouvoir lui apprendre des tas de choses, tu vas devenir un peu son modèle. Vous allez partager votre chambre, vos jeux. Enfin, il va surtout essayer de piquer les tiens, quoi.
Qu'est-ce qui va pas changer, alors ?
Ben, ce qui changera jamais, c'est l'amour qu'on te porte.
Le rire de ma mère est donc plus qu'un film sur la mort ou sur le deuil, un récit initiatique au cours duquel Adrien va apprendre à surmonter ses peurs et même à tomber amoureux. Le film, contre toute attente, est plutôt agréable à regarder. Il est pudique, en même temps terriblement humain. Il réussit à parler de sujets très délicats sans jamais avoir recours à des effets de mise en scène tire-larme. On parle par exemple de maladie sans jamais en voir les effets dévastateurs. Au final, c'est surtout de la vie dont il est question, de sentiments, d'émotions. Le rire de ma mère en deviendrait presque un feel-good movie, car il est moins question de la mort d'une mère que de ce qu'elle va transmettre à son fils pour lui permettre de grandir. Les comédiens sont tous excellents, très justes. Suzanne Clément et Pascal Demoulon, qui jouent les parents, sont vraiment formidables et très complémentaires. Suzanne Clément, surtout, habite son personnage de mère avec une présence incroyable, sans jamais trop en faire, celle que l'on avait découverte chez Xavier Dolan, notamment dans Lawrence Anyways et dans Mommy, prouve une nouvelle fois qu'elle est l'une des plus grandes actrices canadiennes actuelles.
J'ai pas envie de boire des coups, j'ai envie de prendre le soleil.
Il va y avoir des moments difficiles, mais je serai là.
J'ai envie de fumer des clopes, j'ai envie de parler fort.
Mais qu'est-ce qu'elle fait là ?
J'ai envie d'être vivante, tu vois ? Vivante !
À noter que le jeune Igor Van Dessel, qui joue évidemment le fils, hein, est aussi à l'affiche de l'échange des princesses. C'est lui qui interprète leur roi Louis XV. Voilà, donc c'est une petite figure montante du cinéma français. Le rire de ma mère est dans les salles depuis le 17 janvier, tout comme le film The Last Family du polonais Matuszynski.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Quand il n'y a plus d'idées, heureusement, il y a des biopics. Le cinéma en charrie régulièrement et pas tous réussis. Hein. Dernièrement encore, nous avions, un an après un autre biopic le concernant, un film sur Winston Churchill. Un biopic peut servir à mettre en valeur une personnalité connue ou méconnue ou au contraire à nuancer sa valeur. Personnage historique, politique, figure artistique, tout y passe. Le plus intéressant peut-être dans les biopics, hein, c'est quand ils prennent un biais inattendu, comme c'était le cas avec le Barbara de Mathieu Amalric ou même sous une autre forme, le Steve Jobs de Danny Boyle. Pour changer, alors là, direction la Pologne, non pour faire le portrait du syndicaliste Lech Walesa, mais pour faire celui de Zdzisław Beczyński, un peintre surréaliste polonais, familier d'un monde fantastique, torturé, où naviguent des créatures étranges, des squelettes et autres vierges effrayées. Mais ce qui intéresse le réalisateur Jan P. Matuszynski n'est pas l'œuvre du peintre, mais son univers familial. Il y a sa femme aimante, de qui il est très proche. Il y a deux grands-mères qui sont là, mais dont on n'aura que faire. Et puis, il y a le fils, un homme impulsif, névrosé et suicidaire, mais connu dans les années 80-90 dans son pays pour avoir été eh bien, le porte-parole de la pop-musique à la radio polonaise, comme on l'entend dans le film. Voilà, on entend Yazoo, donc un grand tube des années 80. Alors, ce qui a grandement facilité la tâche du réalisateur polonais, c'est que Zdzisław Beczyński a lui-même beaucoup collectionné de documents sur sa famille, photos, enregistrements sonores, Super 8, et bénédiction avec l'arrivée des VHS, il a aussi des vidéos. Et ça, ce sont autant d'archives dans lesquelles il a été simple de puiser. Le réalisateur polonais met d'ailleurs en scène cette manie du peintre à tout vouloir filmer jusqu'à l'excès. C'est le cas lors de l'enterrement de sa belle-mère notamment. Hein. On le voit prendre la cérémonie de manière totalement subjective en insistant sur le chagrin de sa femme. Un vidéaste vraiment acharné. Alors, de sa peinture, on ne saura pas grand-chose finalement, si ce n'est qu'on voit quelques toiles au mur dont on devine le style. Et il y a peut-être un moment ou deux où le peintre essaie de travailler. Mais ça s'arrête là. Hein. Pour en savoir plus sur son art, mieux vaut avoir recours à Internet ou être polonais. Car pour un spectateur français, eh bien, Zdzisław Beczyński est un parfait inconnu. Son fils, plutôt connu dans les médias polonais, l'est tout autant. Et puis la mère et femme qui était considérée comme une intellectuelle nous apparaît ici, eh bien, comme une mère de famille, ni plus ni moins. Mais les trois personnes en fait étaient connues dans leur pays. Alors le réalisateur polonais s'amuse de cette famille bancale avec ce peintre obsessionnel doté d'un humour féroce, ce fils insupportable, capable de venir tout casser hein, chez ses parents, et de cette épouse et mère qui tente de relier ses êtres pour faire tenir coûte que coûte cet univers en demandant à l'occasion à son mari d'aller voir si son fils quand même ne serait pas en train de se donner la mort comme il a l'habitude de le faire. Filmé en noir et blanc, quasiment toujours dans des intérieurs et essentiellement eh bien, les appartements familiaux, celui du peintre et celui de son fils, le cadre enferme ces personnages comme s'il n'y avait qu'un univers. On passe ainsi beaucoup de temps dans les couloirs et devant les portes. Si on quitte les appartements, c'est pour un instant de pluie entre deux immeubles, un passage au cimetière ou une tempête de neige. Le réalisateur commence le film dans les années 70 pour l'achever aux abords des années 2000. C'est à peu près en 3 ou 4 parties. Et au fil du temps, eh bien, certains membres de la famille disparaissent. Hein. Les objets changent, comme l'intérieur de l'atelier du peintre qui n'est autre qu'un salon d'appartement. L'artiste y accumule toujours plus de documents. Les magnétos à bandes laissent place ensuite à des cassettes audio, puis des platines CD. Le film est méticuleux hein, dans ses décors et sa bande-son. Il l'est tout autant quand il organise eh bien, les discours. Celui d'une mère qui tente de ramener son fils à la raison, ou celui d'un père qui souhaiterait que son fils eh bien, parvienne vraiment à mourir puisqu'il le souhaite. Alors durant toute cette période, si ce n'était quelques incursions en dehors avec le fiston, on ne voit rien de la Pologne, ni de sa période communiste, ni de sa libération, ni même de son ultralibéralisme et nationalisme. Les personnages n'ont pas l'air de s'en préoccuper. Encore un extrait, hein. c'est un son diégétique, hein, comme on dit, hein, puisque c'est vraiment un des morceaux, donc là c'était Ultravox, un des morceaux que le fiston passe à la radio polonaise et sur lequel il se déhanche. Alors entre documentaire et fiction brillamment menée, The Last Family est une tragicomédie réussie qui parvient à étonner, alors vraiment du début à la fin, et c'est le meilleur film polonais de ce début d'année, mais bon, c'est pas...
C'est le seul aussi, non ?
C'est le seul, et puis l'année commence. Non, en tout cas, c'est vraiment une très belle réussite, et même si on ne connaît pas le peintre, ça n'a aucune importance, puisque effectivement, l'important, c'est cette famille. The Last Family est dans les salles depuis le 17 janvier. C'est aussi eh bien, le cas de la Rivière Rouge, hein, tourné par Howard Hawks avec John Owen, qui ressort en salle, mais aussi Le Baiser du Tueur de Stanley Kubrick, dont tu vas nous parler maintenant, Manu.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
It's crazy how you can get yourself in a mess sometimes.
David, un boxeur sur le retour, est seul sur le quai d'une gare. En voix off, il nous donne à entendre son histoire en flashback. Début classique de l'archétype du film noir, évoquant l'une des pièces maîtresses du genre, l'indétrônable Assurance sur la mort de Billy Wilder, réalisé en 44. Alors en 55, hein, Stanley Kubrick est un réalisateur qui n'a qu'un seul film à son actif, Fear and Desire, qu'il a renié en partie et qui restera invisible pendant des décennies. Le Baiser du Tueur est donc son second long métrage, tourné avec un budget dérisoire en toute indépendance. Le jeune cinéaste occupe les fonctions de réalisateur, monteur, scénariste, directeur de la photographie et producteur. Alors auteur complet, Kubrick est déjà dans la maîtrise de ce qu'il fait, même dans le cadre d'une série B modeste. Ultérieurement, il apprendra aux dépens des autres, hein, enfin à ses dépens surtout, qu'il ne peut travailler qu'en toute indépendance après la douloureuse expérience de Spartacus où le comédien Kirk Douglas brida ses velléités artistiques. Alors film noir serré et très court qui pourrait être intégré dans le cadre d'un double programme, Le Baiser du Tueur frappe par sa rigueur formelle, même si on est loin d'imaginer que ce cache derrière derrière le film, le futur auteur d'Émurge de 2001 et Barry Lyndon. En 64 minutes, Kubrick impose un style hybride, à la fois hérité du documentaire et d'une esthétique ultra chiadée. Les scènes de boxe filmées au plus près des personnages caméra à l'épaule sont hallucinantes de vérisme, ajoutant une tension et une crédibilité immersive. Alors tout comme les séquences tournées dans un décor citadin naturel, loin des habituelles reconstitutions en studio. Kubrick capte à merveille l'atmosphère urbaine nocturne, que ce soit dans les plans de foule ou sur les toits des quartiers glauques de Manhattan, lors d'une course-poursuite notamment éclatante de virtuosité où l'on trouve déjà les prémices de la puissance formelle du cinéaste. Alors il y a d'incroyables plans aériens qui filment des individus se poursuivant. Alors dans le cadre étriqué d'une production modeste, Kubrick semble vouloir prendre de la hauteur. Alors cette rigueur de la mise en scène est malheureusement un peu atténuée par un scénario qui manque d'ampleur. Comparé à des classiques du film noir se situant notamment aussi dans le milieu de la boxe, hein, comme Nous avons gagné ce soir de Robert Wise ou Body and Soul de Robert Rosen, Le baiser du tueur a davantage des allures d'exercice de style brillant, mais parfois désincarné. Le happy end final est révélateur de ce côté un peu superficiel, loin de la puissance fataliste et désespérée des meilleurs opus du genre, tous frappés par la mélancolie. Alors évidemment, on retrouve le thème du monsieur tout le monde pris dans un engrenage meurtrier à cause d'une femme, classique schéma qui ne semble pas intéresser c'est outre mesure Kubrick. En revanche, il est davantage fasciné par la figure de Vinnie Rapallo, le méchant de l'histoire, névrosé, pathétique, totalement amoureux de Gloria, femme fatale, qui n'en est pas vraiment une. D'ailleurs, l'actrice possède un physique androgyne assez inhabituel, hein, presque ingrat au vu des canons de l'époque, rappelant toute proportion gardée l'allure de Shelley Duvall dans Shining. Alors oui, on a fait un peu plus glamour, hein. C'est assez curieux d'ailleurs. D'ailleurs, je crois que l'actrice n'a joué que dans 2-3 films, hein. Elle a un peu disparu des écrans, donc elle n'a rien d'une grande actrice du film noir comme Jane Tierney ou Lorraine Bacall. Alors en revanche, le film regorge de trouvailles esthétiques et d'éléments kubrickiens en germe, hein. L'utilisation de la courte focale, les éclairages en contre-jour, l'incursion de flashback dans le flashback, dissociation entre la voix off et ce que l'on voit, notamment lors de l'extraordinaire séquence où Gloria explique le parcours de sa sœur danseuse, son père et son enfance malheureuse. Alors voilà, le baiser du tueur, hein, est un excellent petit polar, hein, qui ressort un peu partout en France dans une sublime copie restaurée. Une belle opportunité de découvrir un des films quand même les plus méconnus du cinéaste, même par ses fans, hein, je pense. Mmh.
En tout cas, c'est un des seuls films de la filmographie de Kubrick qui se termine par une happy end.
Oui, oui, et puis c'est assez rare même dans le film noir. Mmh. C'est ça qui est un peu curieux, qui donne une impression de, je dirais pas d'inachevé, mais une petite compromission au genre, en fait. Hein.
Bon, après, il s'est repris, hein, il est resté pessimiste jusqu'au bout. Après, on peut parler aussi des duels, hein, c'est effectivement un film sur les duels. Et il y a Michel Simon, alors je recommande à tous les auditeurs d'aller sur le site de la Cinémathèque, parce qu'il y a Michel Simon qui a fait, eh bien... une petite explication autour de plusieurs éléments qui concernent Kubrick, c'est-à-dire les duels, la symétrie, les masques, l'invention, c'est-à-dire tout ce qu'il a mis en place dans ses films, et puis la méthode de Kubrick, c'est-à-dire une méthode un peu obsessionnelle, hein, où il s'entoure d'énormément de personnes, et puis de documents. Ça va nous donner l'occasion de jouer un blind test, cette ressortie de Killer's Kiss. Et puis de citer Kubrick, hein, un film sera toujours plus que tout ce qu'on pourra en dire. Voilà. Donc, tu aurais même pu t'abstenir de parler du film. Parce que...
Oui.
Voilà. En tout cas, on recommande d'aller voir les films de Kubrick. Et on écoute le premier extrait de ce blind test.
Oh, si c'est un exemple qu'il vous faut, prenez-moi.
Vous ?
Oui, si c'est un exemple qu'il vous faut, un homme fera autant d'effets que 100. Le choix logique est de prendre l'officier le plus responsable de l'attaque.
Colonel Dax, je crois que vous êtes surmené. Il n'est pas question des officiers. Paul, n'en faisons pas une affaire d'État. Nous nous limiterons à une douzaine.
J'avais parlé de 100 hommes et nous descendons à 12.
Paul, nous n'allons pas chipoter là-dessus éternellement. Réglons la question une fois pour toutes afin de ne plus y revenir.
Ça a été trouvé, évidemment.
Il s'agit des Sentiers de la Gloire.
Film de 1957, donc c'est le quatrième film, hein. Il y en a eu 13 dans la filmographie de Kubrick. À noter que c'est sans doute le premier film où il y a vraiment, alors ça c'est une marque de fabrique, hein, du réalisateur, le travelling arrière, notamment celui dans les tranchées. Formidable film, Les Sentiers de la Gloire, qui a été interdit en France, puisqu'il est quand même question d'officier français. Il a été, alors je me souviens plus du moment où il a été projeté en France, mais c'était
dans
les années 70.
Ouais, voilà. Beaucoup plus tard.
Projeté en 75, voilà, j'ai retrouvé dans mes notes. Donc 18 ans plus tard. Deuxième extrait.
La cérémonie fut célébrée par le révérend Samuel Rent, chapelain de Madame la Comtesse.
Ne saurait d'aucune manière être embrassé ou réalisé inconsidérément à la légère ou par caprice, pour satisfaire des appétits charnels et la concupiscence comme des bêtes sans foi ni entendement, mais avec respect, discrétion, réflexion, sobriété et dans la crainte du Seigneur.
Ça a été trouvé, évidemment.
Oui, c'est Barry Lyndon, le film qui a rendu un peu fou, je dirais, Ryan O'Neill, pour le nombre de prises à chaque fois qui était tourné par plan, en fait.
Ah oui, parce que effectivement, c'était Kubrick est connu pour être quelqu'un de très méticuleux. Alors, il se trouve que sur ce film, il est connu parce que c'est un éclairage à la bougie grâce à un objectif qui a été mis au point par la NASA. Ils ont dû adapter une caméra. Enfin, voilà. Ça fait partie aussi de ce qu'a fait Kubrick sur un certain nombre de films, c'est-à-dire qu'il a vraiment inventé des techniques de prise de vue. Et donc, c'est l'ascension sociale d'un jeune Irlandais, hein, sans le sou, dans la société du XVIIIe siècle jusqu'à sa déchéance. Barry Lyndon, film de 75, un autre film maintenant.
Tu veux rester avec ces petits salopards que tu fréquentes ici?
Ah, vas-tu enfin me laisser
tranquille?
Cesse de hurler
comme une folle! Tu n'es qu'une sale petite...
Laisse-moi m'en aller! J'en ai marre de toi, vieux salaud!
Tu ne les reverras jamais, tes petits copains, tu entends? Ça, je peux te le promettre!
Je vais te dire une bonne chose! À présent, je ferai tout ce qui me plaira! Toutes les fois, je serai avec toutes les
filles! Cesse de hurler des obscénités!
Et tu ne m'en empêcheras pas!
Tais-toi!
Ça a été trouvé.
Oui, donc c'est Lolita, l'adaptation du roman de Nabokov, d'ailleurs qui est scénarisé par lui-même, hein, je crois, il me semble.
Oui, alors bon, après Kubrick a changé un certain nombre de choses, même si Nabokov est quand même crédité, mais bon.
Mais c'est le seul roman, je crois, que Kubrick, qu'il a adapté au cinéma et qu'il appréciait, parce que généralement, il adaptait des romans qu'il détestait, comme Orange Mécanique et Shining.
Et c'est un film avec James Mason et Peter Sellers qui interprète deux rôles dans ce film. Quatrième extrait.
Je suis libre. Mais je suis ignorant. Je ne sais même pas lire.
Tu sais des choses qu'on n'apprend pas.
Je ne sais rien. Rien. Et je veux savoir. Je veux savoir.
Savoir quoi?
Tout. Pourquoi les étoiles tombent du ciel et pas les oiseaux? Où le soleil se cache la nuit? Et pourquoi la lune change de forme?
Ça a été trouvé, Manu.
Et oui, c'est Spartacus, que l'on peut considérer comme certainement le film le moins personnel du réalisateur.
Mmh. Bah, une moitié de film, hein. Enfin pas une moitié, hein, parce que si Anthony Mann n'a fait que quelques images, effectivement.
Il a tourné beaucoup, Anthony Mann, mais je pense qu'il y a peu de choses à l'écran qui lui appartiennent. Voilà.
Qui demeurent. Film avec Kirk Douglas qu'on entendait, Laurence Olivier, Peter Ustinov, Tony Turkis, entre autres, grand film. Dernier extrait, et là c'est extrêmement facile, mais ça fait tellement plaisir.
Vous êtes du vomi, vous êtes le niveau zéro de la vie sur Terre. Vous n'êtes même pas humain, bande d'enfoirés! Vous n'êtes que du branlement végétatif, des paquets de merde, d'amphibiens, de la chasse! Parce que je suis une peau de vache, vous me haïrez! Mais plus vous me haïrez, et mieux vous apprendrez! Je suis vache, mais je suis réglo! Aucun sectarisme racial ici! Je n'ai rien contre les négros, Rital, Youpin ou Metek! Ici, vous n'êtes tous que des vrais connards! Et j'ai pour consigne de balancer toutes les couilles de loup qui n'ont pas la pointure pour servir ma chère unité. Tas de punaises, est-ce que c'est clair?
Chef, oui, chef!
Facile.
C'est Full Metal Jacket.
Eh oui. Full Metal Jacket avec Ronald Lee Hermé, l'instructeur. Voilà, ça fait partie aussi hein, de ces personnages de cinéma qui vont demeurer longtemps, j'imagine, dans
l'inconscient collectif.
Du spectateur. Ainsi s'achève ce blind test spécial Stanley Kubrick. On retrouve maintenant eh bien, l'actualité cinématographique avec un film qui n'a rien à voir avec du Kubrick. C'est L'Enfant de Goa de Mirensha Naik.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
Santosh est un jeune adolescent indien qui vit dans le village de Borib Mol à Goa, comme le titre l'indique. Si Goa est connu pour attirer les touristes en mal de yoga et de jolis paysages indiens, la réalité que nous voyons ici est bien différente. Santosh et sa grand-mère sont exploités par Juz, un marchand de sommeil, logés dans une hutte et embauchés pour un salaire de misère quand ils ne se font pas carrément tabasser. Santosh doit se cacher pour aller en cours, le seul moyen, selon lui, d'échapper à son quotidien et à la misère. Et malgré les privations, les humiliations et les violences, Santosh ne veut pas renoncer à prendre chaque jour le chemin de l'école.
T'as quel boyfriend, hein ?
40 ans.
Hein ?
Splendeur et misère de l'Inde sont au rendez-vous dans ce film difficile, enfin splendeur des paysages et misère en tout genre, puisqu'il sera question dans le désordre et bien de mal logement, de féminicide, de grossesse non désirée, de viol, d'abus d'enfants, de travail illégal et d'immigration. Une liste quasi exhaustive des problèmes de l'Inde donc, et il est vrai parfois que l'ardoise est un peu chargée, le film est très premier degré, très sérieux, et il filme ses villageois avec une crudité quasi documentaire. On s'intéresse également à travers le personnage principal à plusieurs personnages secondaires et le moins qu'on puisse dire c'est que l'ensemble est malheureusement assez sordide. Hein. On sait que le cinéma en Inde se sépare en deux catégories. D'un côté, le cinéma Bollywood avec chorégraphie, décors flamboyants et une certaine tendance à nier la réalité. De l'autre côté, eh bien, un nouveau cinéma très social et très ancré dans les problématiques du pays, un cinéma quasi salutaire. L'enfant de Goa appartient évidemment à la deuxième catégorie. Alors récemment, il y a eu Déesse indienne en colère qui parvenait à parler du harcèlement des femmes et du viol en Inde tout en s'autorisant un ton parfois très léger. Ici, on est face à un cinéma social très épuré qui peut sembler du coup un peu austère. L'horreur est donc montrée de façon frontale, sans état d'âme ni effet de style et l'enchaînement de scènes particulièrement dramatiques, hein, filmées avec une distance volontaire ou carrément en recourant au hors-champ qui nous donne parfois l'impression eh bien, que c'est Michael Haneke qui est venu filmer l'Inde. Voilà, l'enfant de Goa, c'est en salle.
Et maintenant Manu, tu vas nous parler d'un réalisateur que tu apprécies énormément, c'est Aung San Suu.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Donc je vais vous parler du meilleur film coréen sorti depuis le début de l'année, donc Seul sur la plage, le soir. Alors réalisé antérieurement à Yourself and Yours et le jour d'après, les deux précédents chefs-d'œuvre de Aung San-Suu, sortis en salle l'an passé, Seul sur la plage, le soir, beau titre je trouve au passage, hein, est certainement l'un des films les plus désenchantés de son auteur, une perle noire qui laisse un goût amer dans la bouche et vous enveloppe dans une infinie tristesse, rien que ça. Bref, pas vraiment le trip idéal pour soigner la déprime post-jour de l'an et la reprise du travail. Alors Aung San-Suu filme non pas l'échec de l'amour, mais l'après-rupture, le moment où le moment du deuil et de l'oubli, du repos forcé où l'on doit se ressourcer et éventuellement se reconstruire. Une jeune actrice, Young Yi, est en exil à Hambourg avec une amie plus âgée qu'elle. Elle s'est éloignée d'une histoire d'amour avec un cinéaste, histoire qui laisse des traces profondes. Son amie, prosaïque, est résignée, les relations avec son mari, on le devine, étant au point mort. Le film débute ainsi, sous forme de gueule de bois, et pas besoin de picoler jusqu'à l'aube pour être dans un état végétatif. Il règne un climat mélancolique au romantisme sombre, ce que la musique de Schubert ne fait qu'accentuer. Après cet épisode de Hambourg, hein, de 45 minutes environ, hein, un deuxième générique commence. Alors pour qui connaît l'univers du coréen, cette fantasy est une figure de style récurrente. Mais au lieu de n'être qu'une marque de fabrique, cette rupture est nécessaire. On repart presque pour un autre film, tout aussi noir, mais davantage placé sous le signe de la cruauté et d'une rage intérieure dans les échanges notamment, et parfois morbide. Le romantisme ténébreux laisse sa place à un univers plus sec, plus solaire aussi, mais tout aussi triste. On quitte le froid allemand pour une station balnéaire en Corée, où personne n'a heureux. Rares sont les incursions burlesques habituelles, hormis cette séquence ubuesque avec le laveur de carreaux. Alors lors d'un plan séquence de 15 minutes, Aung San-Suu filme un repas mouvementé, scandé par des explosions verbales foudroyantes et des comportements érotiques inattendus. Le dispositif est estomacant, Kim Min-hee est sidérante lorsqu'elle annonce qu'il ne lui reste plus qu'à mourir avec élégance, ou encore les gens ne savent pas aimer, ils ne font que vivre. La colère, la résignation domine ce dîner où les convives boivent plus que de raison et se comportent étrangement. Un grand moment de cinéma en plan fixe, dynamisé par un zoom brutal, resserrant l'action, si j'ose dire, sur le visage bouleversant de l'égérie du cinéaste. Ensuite, on retrouve les motifs habituels du cinéaste, mais on ne joue plus à se séduire, l'amour est derrière les personnages. Alors secrètement, ils en rêvent, mais ils ne le formulent pas. Alors paradoxalement, ce film désenchanté, émotionnellement très compliqué à recevoir, malgré la douceur de la forme, est aussi une déclaration d'amour à une actrice qui est devenue sa compagne au moment du tournage. Alors un fait troublant ayant agité les journaux People en Corée du Sud à l'époque, hein, le cinéaste se sépara de sa femme pour vivre une histoire avec le célèbre mannequin et actrice du génial notamment Mademoiselle. Alors quand la fiction rejoint ou s'oppose à la réalité sous forme de miroir troublant, blanc et déformé. Alors, seul sur la plage la nuit, le soir, serre le cœur et s'adresse à tous les handicapés de l'amour, à ceux qui ont laissé derrière eux une histoire blessante. Alors, sans doute le film le plus torturé du cinéaste qui entre longtemps après une première vision et donne envie d'y retourner. Mais pour qui ne connaît peut-être pas bien l'univers de Hong Sang-soo, c'est un film, enfin pour des novices, un film un peu difficile à appréhender. Il s'adresse vraiment, je pense, à ceux qui connaissent bien son cinéma et je conseille plutôt le précédent, notamment Le jour d'après. Pour débuter.
Ils peuvent commencer avec le premier puis faire les 50 autres.
Il en est à son 22e ou 23e film, je crois. 22e.
Très prolifique, Hong Sang-soo.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Vous ne pouvez pas contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
La semaine prochaine, nous aurons peut-être vu le Fatih Akin sur lequel nous avons fait l'impasse et nous aurons vu The Greatest Showman, Fortunata, La Douleur, dernier film d'Emmanuel Finkel. À la semaine prochaine.